L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa.
Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'un dans l'autre, le magazine d'info locale de Radio B. Bonjour Elsa.
Bonjour Perrine, bonjour à toutes et à tous.
Cette semaine, nous recevons Lauriane Rivet, conseillère conjugale et familiale au sein de l'association Couple et Famille de L'Ain. Elle nous parle d'un sujet dont on entend de plus en plus parler mais qui reste toujours tabou, la précarité menstruelle. Alors qu'est-ce que c'est? Qui est touché? Comment agir sur cette difficulté genrée? C'est ce que nous aborderons ensemble dans l'interview de la semaine.
À retrouver juste après les brèves.
L'un dans l'autre, les brèves. Programme Life Dombe, la Ligue de protection des oiseaux se mobilise.
Au sein des étangs de la Dombe et durant les 7 années à venir, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, s'engage à protéger le patrimoine naturel. Les prochains enjeux de la conservation ont été rappelés par l'Association de la protection de la nature lors de leur rencontre annuelle le 18 avril dernier à Meximieux. Sur le terrain, la LPO s'est engagée dans différents projets, notamment pour le programme Life Dombe porté par la communauté de communes de la Dombe qui vise à restaurer le milieu naturel de la biodiversité sur 23 chaînes d'étangs de 2026 à 2032. Durant 7 ans, l'association va suivre certaines espèces d'oiseaux comme le héron pourpré et les échasses blanches. Elle va suivre aussi la population des amphibiens et des chauves-souris. L'équipe de la LPO cherche les nids, rencontre les agriculteurs, propose des piquetages visibles lors de passage des engins agricoles qui sont pour eux les premiers gestionnaires d'espaces naturels. D'autres types d'actions de sensibilisation seront proposées auprès des plus jeunes dans 28 classes chaque année.
Trois infirmières lancent un projet de santé pluridisciplinaire.
Face à des délais qui s'allongent et à un manque de médecins sur le territoire, Margot Roux, Elodie Plot et Mathilde Astier, toutes trois infirmières, ont décidé de créer un cabinet à Guérin. L'objectif de ces trois praticiennes, créer à terme une maison de santé pluridisciplinaire. Les locaux existent déjà, mais l'envie est de réunir toute une équipe au sein du cabinet. La proximité entre les professionnels permettrait de coordonner les soins. Il est identifié qu'il faudrait des médecins généralistes, des kinés et des orthophonistes. D'autres professions sont aussi invitées à se joindre au cabinet, comme des ergothérapeutes, des psychomotriciens ou des sages-femmes. Les trois infirmières ont pour ambition de créer une offre de soins avec des professionnels qui se connaissent et qui partagent leurs observations. Elles espèrent aussi rompre l'isolement de certains patients en renforçant le lien entre les différents intervenants qui seront sur place.
Des bénévoles pour Brin-le-Cirque.
L'événement aura lieu du 20 au 29 mai et se tiendra aux arrières du monastère royal de Brou. Pendant cette 27e édition, les artistes amateurs de l'ETAC, l'école des techniques des arts du cirque, se produiront sous le chapiteau. En partenariat avec la scène nationale de Bourg-en-Bresse et la tannerie, des spectacles de professionnels seront aussi proposés au public, comme Ourvavi de la compagnie Rasposo qui propose un spectacle entre cirque, théâtre et marionnettes, ou encore un concert de musique de chœur féministe de Bourg. Au total, ce sont 8 compagnies et 14 spectacles amateurs qui sont prévus, ainsi que des ateliers et un marché artisanal. Pour réaliser ce festival, l'ETAC a besoin de bénévoles pour participer à l'organisation. Avant, pendant et après l'événement, notamment pour tenir la buvette, accueillir le public ou s'occuper de la restauration ou en amont pour installer le chapiteau. En tant que bénévole, il est aussi possible d'héberger des artistes. Alors si certaines missions vous intéressent, renseignez-vous sur le site internet www.etac01.com.
L'un dans l'autre, l'interview. La précarité menstruelle, c'est la difficulté, voire l'impossibilité d'accéder à des protections périodiques, mais aussi à des conditions dignes pour vivre ces règles. Un enjeu à la fois sanitaire, social et économique, qui touche en particulier les jeunes, les personnes en situation de précarité et les étudiantes. Pour mieux comprendre de quoi on parle, comment accompagner les personnes concernées et ce qui existe déjà sur notre territoire, nous recevons Lauriane Rivet, conseillère conjugale et familiale au sein de l'association Couple et Famille de L'Ain. Lauriane Rivet, bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre rôle au sein de l'association Couple et Famille de L'Ain?
Bonjour, donc, je suis conseillère conjugale et familiale à l'association Couple et Famille de l'Ain. On est agréé EVARS, ce qui veut dire Espace de vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est un agrément de l'État. Et du coup, mes missions au sein de l'association, c'est d'informer sur la vie affective, relationnelle et sexuelle, donc par des actions collectives notamment, mais c'est aussi de recevoir les personnes sur ces questions-là de la vie affective, relationnelle et sexuelle, des relations en individuel, en couple, en famille. Voilà, et c'est tout plein de sujets qui sont couverts par cette thématique globale.
Merci beaucoup. Donc, on entend de plus en plus parler de la précarité menstruelle. Comment la définir simplement ?
Alors, effectivement, la précarité menstruelle, c'est un sujet dont on commence à parler un peu plus maintenant. C'est le fait de se retrouver en difficulté quand on a ses règles pour accéder notamment à des protections hygiéniques qui peuvent être coûteuses, mais aussi sur le moment, voilà, on se retrouve avec nos règles et en fait, on n'a pas ce qu'il faut sur soi. Ça peut être aussi la question des douleurs qui viennent handicaper le quotidien. Et moi, j'aime bien pousser aussi à cette désinformation qu'il peut y avoir. On n'a pas toutes et tous le même accès à l'information autour du corps, du cycle menstruel. Et donc, quand on ne connaît pas son corps, c'est quand même beaucoup plus difficile de vivre ces moments-là qui ne sont pas toujours agréables.
Oui, on pense même aux petites filles, par exemple, qui ont leurs règles pour la première fois et auxquelles on n'a jamais parlé de ce sujet-là.
Oui, ça peut être vraiment un moment parfois traumatisant parce que on n'a pas parlé de ce sujet-là en amont. Et donc, c'est la découverte sur le moment. Et donc, c'est la panique. Donc, c'est très important de pouvoir en parler dès le plus jeune âge. Hein. C'est pour ça que depuis l'année dernière, on est dans un projet expérimental avec l'Éducation nationale où on intervient dans des collèges pour équiper les collèges en distributeurs de protection hygiénique. On a aussi une exposition qui s'appelle 100% qui circule dans les collèges. Et nous, on intervient aussi pour de la sensibilisation auprès des élèves de 6e ou 5e sur ce sujet-là pour expliquer en mixité, ça c'est important aussi pour nous, que tout le monde ait la connaissance de ce que c'est que les menstruations. Donc pour expliquer ce que c'est que les menstruations, les différents types de protection hygiénique et pour ramener aussi de l'égalité sur ce sujet-là.
Alors, à quel moment la question des règles est-elle devenue un sujet public ? Qu'est-ce qui l'a favorisé, d'après toi ?
Eh bien, en fait, le Covid et puis du coup la crise qui s'en est suivie aussi d'un point de vue économique a mis vraiment en avance ce phénomène-là de précarité menstruelle, puisqu'en fait, on est passé de 2 millions personnes touchées par la précarité menstruelle en 2021 à 4 millions en 2023. Ce qui fait quand même... ça a doublé, en fait, en 2 ans. Et du coup, forcément, les pouvoirs publics aussi sont saisis de cette problématique. Et du coup, il y a des choses qui commencent à se mettre en place, comme là, on entend parler de la gratuité des protections réutilisables pour les moins de 26 ans et pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Donc, il y a des choses quand même qui avancent sur le sujet. Et là, c'est vraiment d'actualité, mais c'est pas trop tôt. Enfin, c'est bien qu'on puisse en parler parce que... C'est quand même un phénomène qui touche finalement une personne menstruée sur 3.
Est-ce que vous avez le sentiment que du coup la parole s'est vraiment libérée ces dernières années sur ce sujet-là ?
Alors ça reste un sujet tabou qu'on ne peut pas aborder avec tout le monde dans le sens où il peut y avoir des réactions qui peuvent être surprenantes, mais voilà, de l'ordre quand même aussi du dégoût. De la désinformation. Et finalement, on voit que c'est quand même encore un sujet qui est trop peu abordé et qui reste quand même de l'ordre de l'intime. Alors que finalement, ça touche quand même 50% de la population. Mais ça commence à évoluer. On voit que dans la jeune génération notamment, c'est un sujet qui est un petit peu moins tabou. Mais pour ça, en fait, il faut en parler massivement, j'ai envie de dire.
Oui, et dès le plus jeune âge, comme ce que vous faites dans les collèges, finalement.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, le fait que ça devienne visible, on le voit aussi dans la publicité, dans les médias, les représentations évoluées. Est-ce que ce changement d'image a, selon vous, un impact réel sur les mentalités ?
Oui, bien sûr, parce que ça passe par là aussi, c'est par ce qu'on montre des menstruations, donc notamment dans les pubs pour les serviettes hygiéniques, où ça, c'est très récent en fait qu'on voit du fluide rouge sur les serviettes. Avant, c'était bleu. Et nous, enfin, on a déjà eu le retour de notamment de petits garçons qui pensaient que le sang des règles, eh ben, il était bleu. Voilà, c'est parce que ils ont vu ça à la télé. Donc, si on montre pas la réalité finalement, on passe quand même à côté de quelque chose et de pouvoir en parler vraiment, quoi.
Est-ce que la précarité menstruelle peut avoir des conséquences sur la santé de manière globale, qu'elle soit physique ou psychologique ?
Alors oui, évidemment, puisque sur la santé physique, par exemple, si on garde trop longtemps des protections, notamment internes, je pense notamment au tampon, qui doit être changé toutes les 4 heures, mais voilà, on se dit, bon, là, j'ai pas assez pour tenir mon cycle, donc je vais laisser un petit peu plus longtemps. Et ben, y a par exemple le syndrome du choc toxique qui peut se déclarer, donc là c'est quand même quelque chose d'assez grave et finalement qui n'est pas si rare que ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et puis il y a un vrai impact aussi sur la santé mentale, sur comment on se sent, comment aussi est-ce qu'on ose sortir de chez soi à ce moment-là, est-ce qu'on ose être en lien avec les autres, est-ce qu'on peut aller à l'école, parce qu'il y a aussi beaucoup d'absentéisme qui est dû à ça, à l'école, au travail, voilà, au fait qu'on est dans cette précarité menstruelle. Donc ça a vraiment un impact sur la santé, sur la vie sociale, voilà, à tous les niveaux en fait.
Est-ce que vous, dans votre pratique professionnelle, vous rencontrez des personnes directement confrontées à ces difficultés ? Sous quelle forme ça peut se manifester ? Qu'est-ce qu'elles disent ?
Alors oui, on en rencontre. Nous, on fait beaucoup d'actions dans les structures sociales, médico-sociales, les personnes en situation de handicap aussi. Et donc, on vient les sensibiliser sur le sujet. On vient faire de la distribution aussi de protection hygiénique et fournir des structures en protection. Donc oui, on est concrètement en lien avec ces personnes-là. Et c'est surtout, en fait, la désinformation sur le sujet. C'est assez surprenant au début. On s'est dit, ces personnes menstruées, là, finalement, elles connaissent quand même très peu leur corps. Et du coup, elles le vivent mal. Et elles ne savent pas non plus où est-ce qu'elles peuvent se procurer des protections hygiéniques. Et dès qu'on dit qu'elles peuvent trouver des protections hygiéniques dans leur structure, puisqu'on va en mettre à disposition, hein, c'est quand même rassurant, ça s'enlève une charge mentale. Parce que c'est ça aussi, hein, les menstruations, c'est une grande charge mentale. Donc tout de suite, ça apaise et ça permet aussi pour notamment des mamans d'en parler aussi à leurs filles, alors que jusqu'alors, elles n'avaient aucune information à donner à leurs filles sur le sujet.
Mmh. D'accord. Donc ça évite la reproduction peut-être de certains schémas.
Oui, tout à fait.
Alors quelles stratégies justement mettent en place certaines femmes pour faire face parfois avec peu de moyens ?
Alors, par exemple, on sait que y a des personnes menstruées qui utilisent du papier journal à mettre au fond des sous-vêtements pour pouvoir absorber le sang. Bon, il y a la technique classique, je pense qu'on a tout utilisé, du papier toilette au fond de la culotte. Et après, il y a aussi plein... Enfin, voilà, il y a d'autres possibilités mises en place, mais qui sont finalement, en fait, dangereuses. Pour la santé des personnes menstruées.
Mmh. Est-ce que la précarité menstruelle est aussi liée généralement à d'autres formes de précarité plus globales, ou est-ce qu'elle peut se retrouver dans toute la société ?
Alors c'est quand même en lien de toute manière avec la précarité financière. Il y a quelque chose de l'ordre quand même de pouvoir acheter ces protections hygiéniques. Donc il y a quand même vraiment un lien. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup chez les étudiantes. Chez les étudiants, chez les étudiantes, parce qu'on sait que c'est une population précaire. Donc oui, ça a un lien quand même. Et puis après, bah, y a cette histoire du manque d'information qui, par contre, aussi peut se retrouver dans d'autres classes sociales.
Mmh. Est-ce que les pouvoirs publics prennent suffisamment en compte cette problématique, selon vous ?
Alors pour le coup, dans le département de l'Ain, on est vraiment soutenu par la DDETS avec notamment Madame Grosjean qui est déléguée aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et du coup, on est dans ce projet d'expérimentation auprès de l'éducation nationale. On a aussi des subventions pour intervenir dans les structures sociales. Cette distribution aussi qui est assurée par la Croix-Rouge de protection hygiénique. Et là, bientôt, on a une action qui vient, c'est un spectacle de la compagnie de la mécanique, de la compagnie du fil rouge, donc qui s'appelle La mécanique des fluides, qu'on organise dans le cadre de la journée de l'hygiène menstruelle, qui en fait se déroule le 28 mai. 28 parce que c'est le nombre en moyenne de jours dans un cycle, et mai parce que c'est le cinquième mois, et en moyenne, les règles durent 5 jours. Voilà, donc ça a été choisi aussi pour ça. Donc on peut aussi mettre en place des actions comme ce spectacle-là, par le biais de subventions qui nous sont nécessaires en fait, pour pouvoir parler de ce sujet.
Vous voulez nous en dire un petit peu plus sur le spectacle ?
Oui, du coup, le synopsis de ce spectacle, en fait, c'est Antoine et Chloé qui viennent raconter en fait, sur scène avec beaucoup d'humour, avec de la chanson, beaucoup de visuels aussi, tout ce que les règles en fait, viennent produire, viennent faire en fait, dans la vie d'une personne menstruée, tout ce que ça implique de manière vraiment pédagogique, parce que ça a été fait notamment pour les collégiens, collégiennes et lycéennes, et tout le monde en fait, hein, les adultes y compris, vraiment pour pouvoir expliquer ce que c'est que les règles, ce que ça génère. Donc ça va se dérouler le jeudi 28 mai après-midi à 13h45 à la salle du Vox, du coup à Bourg-en-Bresse. Donc il reste encore des places, il suffit de nous contacter à l'association pour pouvoir vous inscrire.
Ok, merci beaucoup. Pour terminer, qu'est-ce qu'il faudrait développer maintenant pour lutter plus efficacement encore contre la précarité menstruelle ?
Eh bien, moi j'attends déjà de voir l'application du remboursement des protections réutilisables, parce que c'est une loi qui est quand même sur le tapis, on va dire, depuis 3 ans en tout cas, et on attend cette fameuse liste pour les pharmacies pour que ça puisse être effectif. Et après, voilà, c'est continuer d'en parler, c'est continuer d'essayer de ne pas avoir honte d'avoir ces règles.
Dernière question. Plus largement, pensez-vous que parler des règles aujourd'hui est aussi un enjeu d'égalité entre les hommes et les femmes ?
Ah oui, tout à fait, puisque nous, on le voit dans nos interventions au collège. Déjà, les garçons sont autant intéressés, voire même des fois plus, que les filles par le sujet des règles. Et c'est remettre vraiment de la connaissance de l'autre, de ce qu'on ne vit pas dans son propre corps, et du coup de l'empathie. Et on évite par là les moqueries. On sensibilise aussi toute personne à savoir utiliser, aller acheter des protections périodiques, à essayer de comprendre le cycle avec les variations d'humeur, de prendre soin de l'autre finalement, de peut-être même avoir une protection dans son sac pour une copine, une personne qui aurait ses règles dans notre entourage, alors même qu'on n'est pas concerné. On a eu des échos comme ça. On a un garçon au collège qui nous a dit « du coup, moi maintenant, j'ai une serviette hygiénique dans mon sac au cas où j'ai une camarade de classe qui, à un moment donné, en a besoin et qui n'en aurait pas sur elle ». Et ça, on a trouvé ça génial, quoi. On s'est dit, ça y est, on s'empare vraiment du sujet. Et c'est pour ça qu'aussi, dès petits, c'est important de pouvoir en parler, parce que c'est de là aussi qu'on va éviter pas mal de violences. Parce que les violences entre les hommes et les femmes naissent aussi de cette incompréhension, de ces différences qui ne sont pas, en fait, nommées, et qui, du coup, où il n'y a pas cette empathie. Mmh.
Eh ben merci de développer cette empathie, Lauriane Rivet, merci.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Pour mémoire, le spectacle 100% sera présenté le 28 mai au Vox à Bourg-en-Bresse.
L'association Couple et Famille de l'Ain a aussi créé un jeu sur les thèmes des menstruations.
Le jeu « Ça va saigner » a été conçu en partenariat avec les jeunes de la mission locale Bresse-Dombes-Côtière, le Fab Lab et la ludothèque de Bourg-en-Bresse. C'est un support de discussion et d'information sur le sujet des règles.
L'association propose aussi des formations à destination des professionnels du secteur social sur cette thématique.
Contactez Couple et Famille au 04 74 32 11 51. Et bien sûr, cette interview est à retrouver en réécoute sur notre site. Vous écoutez L'un dans l'autre,
le mag d'info locale
sur Radio B. L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Elsa.
Merci Perrine et merci à vous pour votre écoute.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'info locale.
D'ici là, restez bien à l'écoute des bonnes ondes de Radio B.
Bonne semaine à toutes et à tous. L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.